VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington, Chérubin Dorsil et Morgane Guiriec.
Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition du vendredi 9 septembre 2016. Au sommaire ce soir...
Vague de violence en RDC, des heurts ont opposé des policiers à des habitants de Kasumbalesa qui protestaient contre l'insécurité.
Pour le moment, il y a déjà 7 morts qui se trouvent à la morgue. Il y a un qui a été tué par les bandits et les autres viennent d'être tués par des policiers.
Tension post-électorale au Gabon, l'opposant Jean Ping met en garde. Le pays connaîtra l'instabilité si la Cour constitutionnelle ne lui donne pas raison dans son contentieux électoral avec le président Ali Bongo.
Et violence dans le centre du Mali. 3 militaires maliens ont été tués dans une embuscade tendue par des djihadistes présumés.
Ne manquez pas notre segment quotidien sur la présidentielle américaine.
Et bien sûr, l'économie et les sports, juste après le journal. Et violence en République démocratique du Congo, près de la frontière zambienne. Des heurts ont éclaté à Kasumbalesa entre les forces de l'ordre et des habitants en colère qui protestaient contre l'insécurité dans la ville après le meurtre d'un commerçant. 3 personnes au moins ont été tuées dans les affrontements. Témoin des incidents, Joseph Chama, un habitant de la région.
Jusqu'à maintenant, ce n'est pas encore calme, parce que ça a commencé depuis hier à 1h du matin. Suite à un décès d'un innocent qui était au deuil, il y avait des voleurs bandits mais armés qui étaient à leur exaction quelque part. Alors, en rentrant avec ce qu'ils ont volé, ils ont tiré 2 balles. Comme il y avait un deuil quelque part, tout le monde s'est dispersé. Alors, en se dispersant là, il y avait un garçon qui chantait là-bas comme des chantres et les bandits l'ont tiré. Il y a des responsables qui ont fait une organisation avec des jeunes de Kasumbalesa pour patrouiller la nuit suite à l'insécurité. Ils ont entendu des balles et des coups de feu. Ils se sont dépêchés sur les lieux. Avant d'arriver sur les lieux, ils ont trouvé déjà des policiers qui ont mis des blocages par-ci par-là. Alors la police les a interdits de passer.
Quel est le bilan de ces incidents?
Pour le moment, il y a déjà 7 morts qui se trouvent à la morgue.
Qui les a tués?
Il y a un qui a été tué par les bandits le soir, à 1h du matin. Et les autres viennent d'être tués par des policiers parce que les policiers tiraient dans des foules avec des balles réelles. Il y a déjà 4 blessés qui sont à l'hôpital. Le gouverneur du Katanga aussi vient d'être tabassé par la population. Il vient de rentrer aussi à Lubumbashi avec ses blessés.
Joseph Chama, témoin joint à Kasumbalesa.
Au Gabon, le bras de fer entre Bongo et Ping devrait trouver son épilogue devant la Cour constitutionnelle. Cette dernière a depuis hier 15 jours pour trancher le contentieux électoral. Arzuma Kompore.
L'opposant Jean Ping a finalement déposé jeudi un recours contre la réélection d'Ali Bongo. Au centre de la polémique, le score obtenu dans la province rurale du Ho-Ogooué, frontalière du Congo, fief ethnique des Bongo. Pour l'avocat de l'opposition, la compilation de 174 procès-verbaux dont son camp dispose pour le Ho-Ogooué montre dans tous les cas qu'Ali Bongo ne peut pas gagner cette élection. Le camp d'Ali Bongo a renoncé à saisir la cour contre Ping, bien qu'il l'accuse en retour d'avoir fraudé sur l'ensemble du territoire. Selon le camp Bongo, ce n'est pas au vainqueur d'initier un recours. Mais l'opposition reste ferme sur sa principale revendication. Le recomptage des voix, bureau de vote par bureau de vote, pour le Ho-Ogooué, en présence de représentants de la majorité et de l'opposition, à parité égale, mais aussi d'experts internationaux.
Violence dans le centre du Mali. 3 militaires maliens ont été tués dans une embuscade tendue par des djihadistes présumés. Ces membres de la garde nationale escortaient un convoi de Gao à Douenza, a indiqué à l'AFP une source militaire.
Au Mali, toujours, le chef de file de l'opposition se dit favorable à un report des élections municipales du 20 novembre. Soumaïla Cissé a évoqué l'instabilité dans le centre et le nord du pays à l'issue d'une rencontre avec le président Ibrahim Boubacar Keïta. Nous avons abordé tous les problèmes, le déficit de dialogue, la nécessité d'organiser des concertations nationales et la situation difficile au nord du pays, a déclaré M. Cissé à l'AFP.
Une explosion a fait au moins 2 morts et des dizaines de blessés au Bénin. La déflagration s'est produite dans une décharge d'enfouissement de produits avariés à 40 km de Cotonou, d'après la police béninoise. La population qui tentait de s'approvisionner en farine s'est jetée sur les zones de la décharge qui ne brûlait pas quand une explosion s'est produite.
Au sud de Soudan, renforcement des troupes de maintien de la paix. L'ONU va devoir faire appel à des pays extérieurs à la région pour recruter certains des 4000 casques bleus supplémentaires qui doivent améliorer la sécurité à Djouba, la capitale du pays. Bagassi Koura.
Dans un rapport adressé hier au Conseil de sécurité, Ban Ki-moon a estimé que les premiers éléments de cette force de protection régionale pourraient arriver à Djouba au plus tard fin septembre. Mais il reconnaît qu'à ce stade, et compte tenu des difficultés et des contraintes, il n'est pas possible de prévoir un calendrier précis pour le déploiement opérationnel complet de la force. Celle-ci s'ajoutera aux quelque 13 000 hommes que compte déjà la MINUS, la mission de l'ONU au Soudan du Sud. Cette force régionale a été autorisée par le Conseil de sécurité en août dernier et son déploiement accepté en principe par le gouvernement du président sud-soudanais Salva Kiir la semaine dernière à l'occasion d'une visite du Conseil de sécurité à Djouba. L'Éthiopie, le Kenya et le Rwanda notamment devraient lui fournir des soldats. Selon le rapport, elle sera composée de 3 bataillons d'infanterie mécanisée et appuyée par des hélicoptères, une unité de forces spéciales, des éléments de génie et des membres de la police militaire. Ban Ki-moon affirme que l'accord et la pleine coopération des autorités sud-soudanaises seront indispensables pour que les 4000 hommes soient mis en place rapidement et puissent travailler de manière efficace.
Toujours concernant le conflit au Soudan du Sud, plusieurs membres de la société civile ont fui le pays. Ils avaient rencontré au début du mois à Djouba les représentants du Conseil de sécurité de l'ONU. Ils craignaient les représailles du gouvernement après la disparition de l'un d'entre eux, ont affirmé des militants à l'agence France-Presse.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le chef de la diplomatie européenne s'est rendu aujourd'hui en Turquie après avoir été vivement critiqué par Ankara pour avoir tardé à réagir après le coup d'État avorté. Cet effort vise à apaiser les tensions et intensifier le dialogue avec Ankara. Les précisions de Tatiana Mosso.
Le président turc Recep Tayyip Erdogan a critiqué à plusieurs reprises ce qu'il perçoit comme un manque de soutien de l'Occident à son gouvernement après le putsch avorté, dont il attribue la responsabilité à l'ex-prédicateur Fethullah Gulen qui vit en exil aux États-Unis. Cette visite était la première d'un responsable de l'Union européenne de ce rang depuis la tentative du coup d'État du 15 juillet. Federica Moreghini a assuré que les deux parties avaient eu des discussions profondes pour que l'État de droit soit respecté après de vives critiques adressées par des responsables européens à Ankara à la suite de dizaines de milliers d'arrestations survenues au lendemain de la tentative du coup d'État. Quant aux discussions sur l'adhésion de la Turquie à l'Europe, la chef de la diplomatie européenne a reconnu qu'il y avait eu de part et d'autre plusieurs irritations, ajoutant qu'Ankara devait faire des progrès. La Turquie a été et est et sera toujours un candidat. Pour le ministre turc des Affaires étrangères, la Turquie est un pays européen, une démocratie européenne. L'avenir de l'Europe est le nôtre, a-t-il ajouté.
3 soldats turcs ont été tués ce vendredi dans le nord de la Syrie dans une attaque contre leur char menée par les djihadistes du groupe État islamique. C'est du moins ce que rapporte l'AFP citant un communiqué de l'armée turque. Cette attaque, lors de laquelle un 4e soldat a été blessé, survient 3 jours après la mort de 3 autres militaires dans la première attaque meurtrière menée par Daesh contre l'armée turque depuis le début de son offensive dans le nord de la Syrie il y a environ 2 semaines. Par ailleurs, le ministre allemand des Affaires étrangères, Frank-Walter Steinmeier, a déclaré que les États-Unis et la Russie tentent de s'accorder sur les modalités d'une trêve des combats de 7 à 10 jours en Syrie.
Et les 2 centrales nucléaires de Belgique et d'autres lieux stratégiques seront protégées dès le début de l'an prochain pour une nouvelle force d'intervention rapide pour faire face à une attaque terroriste. Le ministère de l'Intérieur a fait l'annonce aujourd'hui, mais la presse fait déjà état de ce renforcement sécuritaire. Un porte-parole a précisé que ce n'est pas une réponse à une menace concrète et que ces mesures étaient en préparation depuis plusieurs mois.
Nouveau test nucléaire de la Corée du Nord. Le gouvernement de Kim Jong-un affirme avoir réussi à tester une tête nucléaire susceptible d'équiper un missile. Le Conseil de sécurité de l'ONU pourrait adopter de nouvelles sanctions contre Pyongyang, qui a jusqu'ici méprisé les injonctions internationales sur son programme nucléaire et ses tests de missiles balistiques. Ce 5e, le plus puissant jamais mené par le Nord, selon Séoul, est dénoncé par Washington. Et Pékin a fait savoir qu'il s'y opposait fermement. Lundi, Pyongyang avait lancé 3 missiles balistiques alors que se tenait en Chine un sommet du G20.
Ici aux États-Unis, la campagne de Donald Trump cherche à consolider sa base conservatrice. Ce vendredi, le candidat prend la parole au Value Voter Summit, un rassemblement annuel de plusieurs milliers de militants de la droite républicaine. Le thème du jour, la lutte contre les interruptions volontaires de grossesse, un thème cher aux électeurs ultra-conservateurs. La position de Donald Trump sur la question n'a pas toujours été cohérente, ce que lui reprochent certains dirigeants de son parti. Son colissier, Mike Pence, gouverneur de l'Indiana, sera au podium demain samedi.
Vote aujourd'hui au Congrès américain d'un projet de loi pouvant permettre aux familles des victimes des attentats du 11 septembre 2001 d'intenter un procès contre le gouvernement saoudien pour soutien présumé au terrorisme. La Maison-Blanche s'oppose à ce projet de loi. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com.
L'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco avec John Lindon.
Le nouveau premier ministre tunisien Youssef Chahed a décidé de diminuer les rémunérations de la quarantaine de ministres et secrétaires d'État que compte son gouvernement. Cette action menée par solidarité avec la Tunisie, dont l'économie est en difficulté, permettra de retenir environ 400 euros sur les revenus de chaque ministre. Le taux de chômage en Tunisie est resté très élevé, plus de 15%, surtout chez les jeunes. Et la croissance n'a été que de 0,8% en 2015. Plusieurs bailleurs de fonds et investisseurs réunis à la 6e édition du Forum sur la révolution verte, qui s'achève aujourd'hui à Nairobi au Kenya, ont annoncé des engagements cumulés de 30 milliards de dollars sur 10 ans pour accroître la production agricole. 24 milliards de dollars viendront de la Banque africaine de développement, déjà très active dans le domaine dans des pays comme le Bénin, le Maroc ou le Cameroun. La Société financière internationale a accordé un prêt de 200 millions de dollars aux producteurs guinéens de bauxite. Ce financement entre dans le cadre d'un vaste plan d'expansion d'une valeur de 1 milliard de dollars. Et pour terminer, la communauté musulmane est en effervescence. La fête de la Tabaski se prépare et dans beaucoup de pays africains, certains craignent une hausse des prix du mouton quand ce n'est tout simplement pas l'absence de ceci.
Pour l'actualité sportive ce soir, nous avons en studio Eric Manirakiza. Salut Eric.
Bonsoir Gabi.
Alors, la FIFA ouvre une enquête contre Blatter et Valke.
Tout à fait Gabi, pour des soupçons de conflit d'intérêts et corruption, la chambre d'instruction de la commission d'éthique de l'instance suprême du football doit prouver si Joseph Blatter et Jérôme Valke ont réellement empoché 80 millions de dollars dans un effort coordonné d'enrichissement personnel. L'Allemand Markus Kettner est également visé par l'enquête. Il était directeur financier de la FIFA.
Et on signale aussi, Eric, qu'en Sierra Leone, la présidente de la Fédération de football a été libérée sous caution.
Oui, Isha Johansen a été arrêtée mercredi soir avec deux autres responsables de la Fédération dans une enquête pour corruption. Conduits d'abord au siège de la commission anticorruption, ils ont ensuite, Gabi, été remis au département des investigations criminelles. Elle a été donc relâchée hier, mais ses deux collègues ont passé une seconde nuit en détention, faute d'avoir pu présenter les garanties nécessaires.
Alors en Espagne, pour parler du Real, quand va-t-on revoir Ronaldo et Benzema ?
Oui, Cristiano Ronaldo et Karim Benzema ont manqué le début de saison sur blessure. Demain, le Real rencontre Osasuna en championnat d'Espagne. L'entraîneur madrilène Zinedine Zidane a assuré le retour, mais sans préciser s'il sera ou non titulaire. Si Ronaldo et Benzema sont alignés ensemble demain, on pourrait revoir à l'œuvre le trio offensif madrilène BBC, comme on dit, qu'il forme avec le gallois Gareth Bale.
Paralympique 2016, 16e médaille pour Diaz, la Chine déjà dominatrice.
Oui, le Brésilien Daniel Diaz a remporté hier sa 16e médaille, toujours en course pour devenir le nageur paralympique le plus décoré de l'histoire, alors que la Chine, avec 20 médailles, a écrasé la première journée des Jeux paralympiques de Rio. Diaz, né sans pied ni main, a survolé les 200 mètres nage libre, devançant de 2 secondes son dauphin pour glaner sa première médaille d'or à Rio, la 16e de sa carrière.
Et Jeux 2024 appelle de 68 médaillés italiens de Rio en faveur de la candidature de Rome.
Oui, cet appel intervient au moment même où la mairie de la ville de Rome semble décidée à y renoncer, Gabi.
Merci Eric Manirakiza.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Ravi d'être en votre compagnie, Morgane Guériec et Gaby Dorsil. On va passer à la seconde partie de cette édition, les dossiers du jour.
Le gouvernement malien, en partenariat avec les autorités saoudiennes, a pris de nouvelles mesures de sécurité pour le Hajj 2016 qui attire cette année 9000 pèlerins maliens. On se souvient de la bousculade meurtrière survenue lors du pèlerinage de l'année dernière, au cours duquel plus de 300 pèlerins maliens sont morts. Les mesures annoncées à la veille du pèlerinage 2016 devraient permettre d'éviter pareil drame, explique Madame Cissé Fatoumata Kouyaté, présidente de l'Association malienne des agences de voyage et de tourisme et coordinatrice de la commission d'organisation de la filière privée du pèlerinage.
Le pèlerin malien, en réalité, en termes de sécurité, je crois que le ministère du Hajj a rajouté à la Commission nationale d'organisation une partie des forces de l'ordre. Je pense qu'il y a une sous-commission sécurité et cette sous-commission sécurité a rajouté un certain nombre d'accompagnateurs qui sont chargés de la sécurité des pèlerins et qui sont avec eux.
Le ministre des Affaires religieuses et du culte, M. Tcherno, lors d'une interview, a déclaré que l'Arabie saoudite a pris des mesures supplémentaires, par exemple le système du bracelet électronique. Quelle est votre réaction par rapport à ça?
Lors de la bousculade meurtrière de l'année dernière, on s'est rendu compte qu'il y avait un grand problème d'identification des pèlerins. Cette identification aurait dû être facilitée par le port d'un objet d'identification. Donc c'est pour cette raison que ça a pris corps sous la forme d'un bracelet électronique qui comporte toutes les informations concernant le pèlerin. Donc ça a été, je crois, la mesure phare qui s'est rajoutée aux autres mesures pour l'identification au cas où il y aurait des problèmes.
Combien de pèlerins maliens sont-ils attendus au pèlerinage cette année?
Le quota de 9000 pèlerins qui ont été extraits au Mali, dont 7500 pour la filière privée et 1500 pour la filière gouvernementale.
Le Mali avait demandé 13000 au départ, mais l'Arabie saoudite a octroyé tout simplement 9000. Est-ce que vous avez pu avoir des suites par rapport à votre requête pour l'année prochaine?
Cette année, il y a eu un peu une politique de l'Autriche pour l'organisation du Hajj. Parce que nous savons que l'Arabie saoudite, pour chaque million d'habitants, octroie 1000 pèlerins. Et le Mali, avec ses 17 millions, aurait dû avoir 17 000, un quota de 17 000. Malheureusement, nous en sommes restés à 9 000. Et les 9 000, la filière gouvernementale s'octroie elle-même 1 500 pèlerins, alors que dans nos accords précédents, on s'était dit que progressivement, la filière gouvernementale devra se retirer, en tout cas de la forme commerciale de cette activité. Les 7 500 restants n'étant pas suffisants pour la filière privée, compte tenu du fait que chaque année, il y a des agences de voyage qui se rajoutent au lot.
Fatoumata Cissé Kouyaté au micro de Modibo Dembélé.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Une toute nouvelle découverte scientifique apporte de l'espoir dans la lutte contre le paludisme. Le point faible du parasite responsable de l'infection aurait été identifié. Et les expériences menées sur des souris sont concluantes, nous dit Anastasie Tudiech.
Le paludisme, dû à un parasite transmis par les piqûres de moustiques, touche plus de 200 millions de personnes chaque année. Une fois qu'il a infecté son hôte humain, le Plasmodium falciparum, nom scientifique du parasite, évolue en plusieurs étapes, de l'infection du sang à l'infiltration du foie où il mûrit, puis pénètre à nouveau le sang qui l'infecte. Il détruit alors les globules rouges, libérant dans le sang des milliers de parasites filles qui envahissent les autres cellules, perpétuant le cycle de reproduction et d'infection. C'est lors de ce dernier stade que les symptômes du paludisme apparaissent. Très forte fièvre, transpiration excessive, nausées et diarrhée. Plus d'un demi-million d'individus succombent, la plupart sont des enfants, en Afrique subsaharienne. À chaque étape de son évolution, le Plasmodium falciparum, qui peut devenir résistant aux médicaments, change. La plupart des traitements visent l'une ou l'autre des étapes. Mais les chercheurs du Broad Institute dans le Massachusetts et de l'université Harvard ont isolé un élément qui semble être le talon d'Achille de la maladie, selon Stuart Schreiber, membre fondateur du Centre biomédical.
We did discover a novel Nous avons découvert une nouvelle protéine fabriquée par le parasite, une protéine dont il a besoin pour les trois étapes de son cycle de vie, et aussi une série de nouveaux composants qui pourraient inhiber la dite protéine.
Stuart Schreiber et ses collègues ont publié leur découverte dans le journal Nature. Après avoir découvert la protéine, les chercheurs ont recensé 100 000 petites molécules à partir desquelles ils ont synthétisé une douzaine de composants qui semblent bloquer la synthèse de la protéine et ce, à chaque étape de son développement, ce qui tue le parasite, sur la souris témoin du moins. Les souris n'ont présenté aucun signe d'infection pendant un mois, délai considéré comme un signe de rémission. Quand les chercheurs ont tenté d'infecter des souris avec le sang de rongeurs anciennement contaminés, ils ont constaté qu'elles n'avaient pas développé de paludisme. Le composant que les scientifiques ont testé était une prise unique, par voie orale. Stuart Schreiber ajoute, prudent, que ce qui est efficace sur une souris ne l'est pas forcément sur un humain. Mais il y a de l'espoir.
So I'm the eternal optimist. And on the other hand,
je suis un éternel optimiste, mais je sais que de grands défis nous attendent et aussi de grandes inconnues qu'on ne pourra régler qu'en faisant des expériences.
Des expériences qui comprennent l'analyse des 12 composants, comment ils fonctionnent, combien de temps et si des résistances se développent contre l'un de ces agents prometteurs.
La Guinée redouble d'efforts dans la lutte contre les mutilations génitales féminines. Et pour cause, le taux de prévalence des MGF dans le pays est de plus de 96%. Nathalie Barjajoin, la ministre guinéenne de l'Action sociale, de la promotion féminine et de l'enfance, Sanaba Kaba, en pleine campagne de sensibilisation contre l'excision.
On est en train de se battre pour reprendre le sondage en 2017 et j'espère qu'on va trouver un chiffre totalement en deçà de ces chiffres. On est sur le terrain, on continue à mener des enquêtes et même on va dans le groupe des femmes pour savoir quelle est la position de ces femmes par rapport à ce phénomène. Il n'y a pas plus que le lundi passé, nous étions dans la plus grande commune de la capitale. Je vais parler de la commune de Makoto, qui est même la plus grande commune de notre pays, qui a bénéficié d'une petite assistance de notre département pour organiser une campagne de sensibilisation dans la commune. Là, on était très surprise. La salle a adhéré à toutes les explications qu'on donnait. Et ces femmes sont des femmes leaders. 50 personnes qu'on a mobilisées pour leur donner des arguments nécessaires pour pouvoir convaincre leur base. Toutes ces femmes, chacune individuellement prises, peut avoir une centaine de femmes derrière elles. Tout ça fait des espoirs pour nous, elles viennent. Ça veut dire déjà qu'on adhère à l'idée.
Madame la ministre, en fait, ces chiffres datent de 2012, c'est ça?
Exactement, ces chiffres, c'est le sondage de 2012.
Ok. Donc vous pensez qu'en l'espace de 4 ans à peine, il y aurait eu effectivement beaucoup de progrès? Ça, c'est votre sentiment?
En 4 ans, il y a eu beaucoup d'améliorations. Ouais. Mmh. Aujourd'hui, les religieux sont de notre côté. Mmh. Avant, ça ne pouvait pas être possible. Le secrétariat général des affaires religieuses, à la veille des vacances, a lancé une vaste campagne de sensibilisation. Tous ces efforts ne peuvent pas rester en vain en maintenant le chiffre de 97% de 2012.
Alors, quelle est la peine requise en Guinée, selon la loi, pour quelqu'un qui pratique ou qui fait pratiquer l'excision?
La condamnation varie de 3 mois à 5 ans. Nous bénéficions du soutien total et indéfectible du ministère de la Justice. Quand il y a des alertes, tout de suite, quand ils sont informés, ils se joignent à nous vraiment pour prendre les dispositions nécessaires. Je pense que ça, c'est déjà un atout. La rigueur de la loi, ça va se suivre. Nous sommes dans les processus.
L'interdiction de l'excision n'est-elle pas inscrite dans le Code de l'enfant?
Bon, maintenant, on est en révision du Code de l'enfant et il y a le Code civil qui est en train d'être révisé aussi. On est en train de tenir compte de tous ces facteurs pour vraiment nous rendre plus forts et plus réactifs sur le terrain.
Sanaba Kaba, ministre guinéenne de l'Action sociale, jointe à Conakry.
Présidentielle américaine 2016, à moins de 2 mois de l'échéance du 8 novembre, Donald Trump va tenter de séduire à Washington, les défenseurs des valeurs conservatrices américaines. Cette semaine a été marquée par le durcissement de son duel pour la Maison-Blanche avec Hillary Clinton, en particulier sur les questions internationales. De ce côté, Mme Clinton a choisi de rencontrer son équipe de conseillers en matière de sécurité nationale pour paraître davantage qu'elle est déjà prête à assumer son rôle de commandant en chef. Éric Manirakiza.
Oui, Gabi, les sondages prédisent un match plus serré qu'attendu entre le milliardaire républicain et l'ancienne première dame démocrate. Donald Trump cherche à élargir la base de ses électeurs et envoie des signaux à toutes les ailes du Parti conservateur. Aujourd'hui, à 19h, temps universel, il va s'exprimer dans une conférence annuelle rassemblant des milliers de militants anti-avortement sur un thème cher aux électeurs ultra-conservateurs, alors que même que sa position sur la question a fluctué au fil des années. Il deviendra ainsi le premier candidat d'un grand parti à la présidence américaine à y prendre la parole. Depuis la création de la conférence, c'était en 2006, Gabi, et son colistier Mike Pence, héros des valeurs familiales traditionnelles, anti-avortement et anti-mariage pour tous, s'y exprimera demain.
Mais Eric, Donald Trump a revu sa copie sur la légitimité du président Barack Obama.
C'est à travers sa directrice de campagne et de son supporter Rudy Giuliani, ancien maire de New York. Ils ont fait savoir aujourd'hui que le candidat populiste considère désormais Barack Obama comme étant né aux États-Unis. Monsieur Trump a longtemps sous-entendu que le président était né hors du territoire américain et qu'il était donc inéligible. Cette annonce est perçue, Gabi, comme une façon pour le milliardaire de rassurer l'aile modérée de son camp, voire de tenter d'élargir sa base d'électeurs pour refaire son retard dans les intentions de vote.
Les deux rivaux se rendent coup pour coup à chacune de leurs interventions publiques, n'est-ce pas, Eric?
Exactement, Gabi. Les invectives et la tension sont montées d'un cran cette semaine sur les questions internationales. L'ancienne secrétaire d'État s'est même livrée hier à un exercice qu'elle goûte peu, la conférence de presse, pour attaquer l'antipatriotisme de son rival. Elle a accusé Trump de préférer le président russe Vladimir Poutine à Barack Obama, insultant et terrifiant selon elle. Hillary Clinton a suggéré que Donald Trump n'a, contrairement à elle, aucun projet pour venir à bout des djihadistes et du groupe État islamique. Et aujourd'hui, Clinton rencontre des experts sur la sécurité nationale des deux camps politiques. Une cinquantaine d'entre eux, des républicains, avaient dénoncé en août l'incompétence de l'homme d'affaires new-yorkais, pourtant membre de leur famille politique, Gabi. Trump pourrait bien devenir, selon eux, le président le plus dangereux de l'histoire américaine. Et pour solidifier sa stature de femme d'État, l'équipe de campagne d'Hillary Clinton a par ailleurs annoncé aujourd'hui qu'elle se rendrait dimanche à New York pour la cérémonie de commémoration du 15e anniversaire du 11 septembre.
Merci Éric Manirakiza.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au programme, Island Music, de la bonne musique des Antilles et Caraïbes. RM Show, c'est aussi l'interactivité en direct sur Facebook Live. Si vous voulez me voir en direct, écouter de la bonne musique et partager vos idées avec le reste du monde, connectez-vous sur notre page Facebook VOA Afrique à 20h, temps universel. Nous avoir au téléphone, appelez au 001-202-619-3140. Vos SMS et WhatsApp au 001-703-350-3731. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Et c'est la fin de cette édition. Lionel Gaïma a dirigé la mise en onde avec l'assistance de Nick Ivanov à la console. Présentation Morgane Guiriec et Chérubin Gabi Dorsil.
Ainsi va le monde aujourd'hui. Merci d'être à l'écoute de VO Afrique. Merci à nos fans sur Facebook, 1 700 000, peut-être même davantage, Morgane. On maintient la conversation, envoyez vos photos, vos vidéos, posez des questions. Enfin, n'oubliez pas de visiter notre site voafrique.com pour plus d'infos 24 sur 24.
Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako, sur 102 FM. Raga FM, Kinshasa. Soleil FM, Conakry. 92.3 FM, Radio Wentanga, Wayeguya, Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.